VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue, il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer en ce mercredi 31 juillet 2019. En RD Congo, décès du deuxième malade atteint d'Ebola à Goma. Les mesures pour juguler la contagion sont déjà prises d'après le gouvernement. En Côte d'Ivoire, l'opposition maintient que la commission électorale est toujours déséquilibrée après l'adoption de la nouvelle CEI par le Parlement.
Mais dans le fond, rien ne change vraiment. Il s'agit toujours d'une commission où on retrouve des représentants, le président et des gouvernement.
Pour parler qualifié de constructif entre Américains et Chinois pour tenter d'enrayer leur conflit commercial. Nouveau rendez-vous en septembre à Washington. Et en football, la finale de la Ligue des champions africaine entre Tunisiens et Marocains ne sera pas rejouée. Des détails à venir dans les sports dans 10 minutes. Une deuxième victime d'Ebola, Goma, en République démocratique du Congo. L'homme est décédé la nuit dernière, un peu plus de deux semaines, après un premier cas mortel dans cette grande ville. Le gouvernement a voulu rassurer la population aujourd'hui. Compte rendu, Idriss Fall.
Le malade confirmé d'Ebola à Goma est décédé. Toutes les mesures pour couper la chaîne de contamination sont déjà prises, a déclaré Jean-Jacques Muyembe, le nouveau responsable de la riposte contre l'épidémie. Ce malade était arrivé au centre de traitement au 11e jour de sa maladie, déjà à un degré très avancé. Il est donc décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le docteur Haruna Abedi, coordinateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu. L'homme décédé à Goma est le deuxième cas d'Ebola, 16 jours après un premier cas et un an après la déclaration de l'épidémie qui a fait 1803 morts. Mercredi, 5 bateaux en provenance de Goma ont été immobilisés dans le port de Bukavu et 15 personnes, dont 7 en provenance de Goma, ont été mises en quarantaine à Birava, une localité riveraine du sud Kivu.
Nous reviendrons sur la situation à Goma dans notre parti magazine. En Côte d'Ivoire, le parti MVCI, qui soutient la candidature de l'opposant Guillaume Soro à la présidentielle de l'an prochain, va saisir la Cour africaine des droits de l'homme pour contester la nouvelle commission électorale. Le projet de loi a sans surprise été adopté hier au Parlement, dominé par la coalition du président Alassane Ouattara, comme nous le rapporte notre correspondante Aïcha Diarra.
Désormais, ces commissaires passeront de 17 à 15. Il s'agit d'un représentant de la magistrature, un représentant du président de la République, un représentant du ministère de l'Intérieur, 6 représentants de la société civile. Le parti présidentiel et l'opposition auront chacun 3 représentants. Ce qui veut dire que les représentants de l'État et de la coalition RHDP au pouvoir n'occuperont plus que 5 sièges contre la moitié auparavant. Ce qui est d'une grande satisfaction pour le gouvernement qui voit en cela une mission bien accompli. Selon lui, cette recomposition répond aux exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait émis fin 2016 un arrêt recommandant une CEI plus équilibrée, un équilibre qui n'est pas du goût de l'opposition ivoirienne. Selon eux, les commissaires proches de l'État et du parti au pouvoir sont les plus nombreux, ce qui met en doute l'indépendance de cette instance. Il faut rappeler que ce test est le fruit des échanges inclusifs entre le gouvernement, les acteurs de la société civils et des partis politiques. Ils se sont déroulés du 21 janvier au 26 juin et le rapport final a été signé par les parties prenantes. Aïcha Diarra, à Boaké, pour VOA Afrique.
Et maintenant, cap sur le Niger, où le procès en appel du militant Sadat Malam, qui devait se tenir aujourd'hui, a été renvoyé au 28 août prochain. Il est détenu depuis plus d'un an après une manifestation contre les mesures d'austérité du gouvernement de Niamey. Le compte-rendu d'Abdul Razak Idrissa.
Les juges de la cour d'appel de Zinder devaient se prononcer ce mercredi 31 juillet sur deux aspects. L'appel du parquet contre l'ordonnance de non-lieu prononcée en mai dernier par le juge d'instruction en faveur de l'activiste et une demande de sa mise en liberté provisoire introduite par son conseil d'avocat.
Et nous avons eu espoir aujourd'hui que la chambre soit valablement composée pour que nous puissions savoir les griefs que le ministère public fait à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Et également la mise en liberté provisoire introduite par le conseil. Mais malheureusement, deux conseillers ne sont pas présentés. Voilà pourquoi la Chambre n'a pas pu se prononcer sur les deux aspects. Voilà pourquoi ça a été renvoyé à la prochaine audience. En gros, c'est une détention arbitraire.
Sadat Iliad Amalam est le responsable du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable de Zinder. Il avait été arrêté en avril 2018 dans la vague d'arrestation des mineurs du mouvement social de contestation de certaines mesures fiscales contenues dans la loi des finances de 2018 que les organisations de la société civile ont jugées antisociales. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Ailleurs sur le continent, au Mozambique, le président Filipe Nyusi annonce pour demain la signature d'un accord de paix avec la RENAMO pour mettre définitivement un terme au conflit opposant le pouvoir à l'ex-rébellion devenue le principal parti d'opposition du pays. En vertu de l'accord conclu après même pour parler, certains des combattants des armées de la RENAMO doivent intégrer l'armée et la police nationale, d'autres seront réinsérés dans la vie civile grâce à une aide financière. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed sera le candidat du parti Taïa Tounes à la présidentielle du 15 septembre prochain. C'est une élection anticipée tenue après la mort du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier. En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a limogé le ministre de la Justice Slimane Brahimi aujourd'hui et l'a remplacé par Belkacem Zekmati, actuel procureur d'Alger. Aucun motif n'a été fourni. Le pays est toujours secoué par un mouvement inédit de contestation, même après le départ contraint du président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. La présidentielle prévue le 4 juillet pour élire son successeur n'a pu être organisée faute de candidats.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Chinois et Américains vont se revoir au début du mois de septembre aux États-Unis après des échanges qualifiés de francs, efficaces et constructifs aujourd'hui à Shanghai pour tenter d'enrayer leurs tensions commerciales malgré de vives critiques du président Donald Trump hier à l'encontre de la Chine. Abdourahman Zia.
La Chine s'est engagée à acheter davantage de produits agricoles américains, a affirmé la Maison-Blanche à l'issue de deux jours de tractations à Shanghai. Le service de presse du président Trump qualifie les réunions de constructives. Les négociateurs ont abordé des sujets épineux tels que le transfert forcé de technologies, les droits de propriété intellectuelle, de barrières non tarifaires, ajoute-t-il. À Shanghai, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont rencontré le vice-premier ministre chinois Liu He, leur première discussion en face à face depuis la trêve dans la guerre commerciale. De son côté, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a indiqué que les deux parties ont procédé à des échanges approfondis francs, efficaces et constructives sur les principales questions d'intérêt commun en matière économique et commerciale. Une nouvelle ronde de discussion est prévue début septembre à Washington.
Ailleurs dans le monde, en Afghanistan, au moins 34 personnes ont péri aujourd'hui lorsque leur car a sauté sur un engin explosif posé selon les autorités par les talibans, alors même que l'émissaire américain pour la paix annonçait qu'un accord avec les insurgés pourrait être imminent. Les talibans ont quant à eux indiqué dans un message avoir envoyé une délégation afin de comprendre et déterminer qui est responsable de ce triste incident. Les dizaines de migrants bloqués embarqué depuis une semaine sur le Gregoretti, un navire des gardes-côtes italiens, ont débarqué aujourd'hui grâce à un accord pour les répartir entre 5 pays européens et l'Église italienne. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a donné son feu vert à l'accord, mais il a également, dans la foulée, formellement interdit l'accès aux eaux italiennes à l'Alan Kurdi. Ce navire de l'ONG allemande, CI, a secouru ce mercredi au large de la Libye 40 migrants originaires d'Afrique de l'Ouest, dont 2 femmes et 3 jeunes enfants, et cherche à son tour un port où les faire débarquer. Et puis, Israël a approuvé la construction de logements palestiniens dans une zone de la Cisjordanie sous son contrôle. Une décision rare, annoncée parallèlement à une expansion des colonies israéliennes et avant la visite de Jared Kushner, architecte du plan de paix américain au Proche-Orient. Les détails concernant la visite du gendre et conseiller du président Donald Trump ne sont pas encore connus. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
La société anglo-suisse Glencore déclare avoir perdu 350 millions de dollars au premier semestre de cette année après la réduction de 50% du prix du cobalt, même si sa production a connu une hausse de 28%. La production du cuivre était inférieure de 5% à celle de l'an dernier. Celle du zinc a augmenté de 8%, celle du charbon de 10% et le nickel de 11%. La société a par ailleurs entamé une refonte de ses activités sous-performantes en Afrique, notamment avec des révisions de sa production en RDC, où Glencore a été confrontée à une série de problèmes, dont la mort de mineurs artisanaux qui envahissaient sa concession. Les bénéfices de la société sud-africaine AngloGold Ashanti ont augmenté de 29% au premier semestre de cette année grâce aux revenus d'un règlement légal, des gains de sa co-entreprise Kibali et d'une baisse des coûts de production. AngloGold, qui a annoncé en mai qu'elle examinerait les options de désinvestissement pour sa mine Poneng et d'autres actifs sud-africains afin de se concentrer sur des rendements plus élevés ailleurs, a indiqué qu'elle poursuivait ce plan. Terminons avec la Guinée qui recevra 80 millions de dollars de la Banque mondiale pour des projets de développement, publie l'agence Ecofin. Une partie de ces fonds, soit 50 millions de dollars, vise à faciliter l'accès à l'éducation pour tous les enfants guinéens. Les 30 millions restants permettront de soutenir les petites et moyennes entreprises. La Banque mondiale compte décaisser près de 340 millions de dollars en faveur de 6 projets en Guinée d'ici 2020.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Le TAS annule la décision de rejouer la finale de la Ligue africaine des champions.
Oui Jacques, le tribunal arbitral du sport estime que le comité exécutif de la CAF n'était pas compétent, je cite, pour décider de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Le TAS conclut qu'il appartient désormais aux organes compétents de la CAF d'examiner les incidents survenus lors de la finale. La polémique est de décider si le match retour doit être rejoué ou non. L'Espérance avait été sacré champion après que son adversaire marocain a quitté la pelouse pendant le match retour suite à un litige survenu sur un but refusé par l'arbitre alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage était en panne. 4 jours plus tard, la CAF a décidé que le match soit rejoué sur terrain neutre, estimant, je cite, que les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies. Les deux équipes ont contesté cette initiative devant le TAS. Chacune voulant être déclarée vainqueur.
Sadio Mané nominé par la FIFA pour le trophée The Best.
Sans surprise, l'ailier du Sénégal et de Liverpool fait partie de la liste des 10 joueurs qui se sont brillamment illustrés durant cette année 2019. Vainqueur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur du championnat anglais, vice-champion de la Premier League et de la CAN, Sadio Mané a vécu la meilleure saison de sa carrière. Le numéro 10 des Lions a été auteur de 26 buts et de 5 passes décisives, toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds. raide et de 4 buts, une passe décisive en 11 matchs avec le Sénégal. Moins en vue cette saison, l'Égyptien Mohamed Salah figure également sur cette liste, aux côtés de Matich De Ligt de l'Ajax Paty à la Juve, de Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk de Liverpool, Frankie de Jong de l'Ajax Paty au Barça, Lionel Messi, Harry Kane de Tottenham, Kylian Mbappé du PSG et Eden Hazard de Chelsea acheté par le Real Madrid. Chez les entraîneurs, le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi, vainqueur de la CAN 2019, a été nominé pour le trophée de meilleur entraîneur d'équipe masculine.
Et puis Yacouba, l'I2AF loue la clarté apportée par la nouvelle application du règlement sur l'hyperandrogénie.
Oui, Jacques, la Fédération internationale d'athlétisme a salué la parité et la clarté apportées par la décision de la Cour suprême suisse d'appliquer provisoirement le règlement sur les athlètes hyperandrogènes. Cette décision de l'instance judiciaire suisse empêche ainsi la championne sud-africaine de défendre son titre sur 800 mètres aux mondiaux de Doha qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour en République démocratique du Congo, où la mort du deuxième malade d'Ebola, Goma, provoque l'inquiétude des habitants de la grande ville face à une épidémie qui défie les professionnels de santé depuis une année. Goma est située sur le bord du lac Kivu et à la frontière avec le Rwanda. L'angoisse a également gagné les populations des régions avoisinantes. Reportage sur place de notre correspondant Charlie Kasereka.
Les deuxièmes cas détectés étaient un habitant du quartier Bugamba, dans la périphérie de Goma. Il était parti depuis plusieurs mois à Ituri, d'où il a contracté le virus. Revenu dans les chefs-lieux du Nord Kivu depuis le début de ces mois, il a manifesté les premiers signes de fièvre Ebola le 22 juillet. Juste après ses premières malaises, il s'est précipité au centre de santé près de chez lui. L'infirmier qui a vu le signe a alerté l'équipe de la riposte qui est venue récupérer les malades et l'amener au centre de traitement construit pour la circonstance. L'homme âgé de 46 ans, père de 10 enfants, est décédé la nuit dernière. Jean-Jacques Mouyembe, expert congolais et secrétaire multisectoriel de la lutte contre Ebola en RDC, explique ici.
Il s'est rendu à l'hôpital très tardivement. Donc, il a fait plus de 8 jours à la maison. Il vient de décéder maintenant. Mon rôle ici, c'est vraiment de dire que dans 3 ou 4 mois, nous allons maîtriser cette épidémie.
Ce matin, une campagne de vaccination a commencé, ainsi que la décontamination de l'endroit par les équipes de la riposte. Malgré tout, la crainte des habitants est perceptible dans un quartier où l'eau courante est inexistante. Bati Alain, habitant du quartier Bugamba.
Nous avions eu peur d'abord le matin parce que on a vu le véhicule, les policiers derrière les véhicules. On ne s'attendait pas de quoi.
Vous êtes fait déjà vacciné?
Bon, moi je suis sur la liste. Je sais que demain ou après-demain je vais y passer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits là-bas. Jusqu'à présent, j'ai trouvé cette occasion parce que ça se trouve devant ma porte.
Ce deuxième cas intervient 15 jours après celui d'un pasteur originaire du Sud Kivu, décédé lui aussi au lendemain de la confirmation du premier cas Ebola à Goma. Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 juillet, le professeur Mouyembe indique que les cas détectés n'ont aucun lien avec les premiers qui venaient de Butembo, alors que le deuxième, lui, est venu de Bounia. Selon les mêmes documents, le malade est arrivé à Goma depuis le 13 juillet en provenance d'une zone minière dans la province de l'Ituri sans signe de maladie et a développé les premiers signes le 22 juillet ici à Goma. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
En Côte d'Ivoire, le projet de loi créant la nouvelle commission électorale a été adopté hier par le Parlement dominé par le RHDP, la coalition au pouvoir. Cette commission aura un rôle central dans la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise qui avait fait près de 3000 morts. Mais l'instance est d'ores et déjà contestée. Un parti soutenant la candidature de l'opposant Guillaume Soro va saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Idriss Fall a joint à Abidjan Ngozi Fernand-Julien de l'ONG Agir pour la démocratie.
D'abord en nombre, on passe de 17 à 15. Le nombre de représentants des partis politiques diminue. Le nombre d'institutions de la République représentées au sein de la commission passe à 2 seulement. 35, je crois, voilà, dans l'ancienne commission. Présence plus accrue de la société civile à 5, auxquelles on a adjoint, avec surprise d'ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme, qui est une institution de la République. Mais dans le fond, rien ne change vraiment. Il s'agit toujours d'une commission où on retrouve des représentants, le président et des membres du gouvernement, alors que l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait justement stigmatisé cette notion de représentant. Un représentant est un mandataire qui doit les comptes à ses mandants. Cela veut dire qu'on n'est pas indépendant dans son action, dans son analyse, dans ses faits et gestes. On est représentant, le président de la République est par ailleurs président d'un parti politique, et d'aventure les candidats ou parrain d'un candidat. Par soi que le représentant est dans une posture pas tout à fait rassurante quant à son indépendance et son impartialité.
C'est ça qui fait que certains partis veulent saisir la Cour africaine des droits de l'homme.
Oui, c'est un désespoir de cause, puisque les instruments juridiques internationaux signés par la Côte d'Ivoire font obligation à tous les pays africains signataires ces instruments-là, de rechercher le compromis, le consensus dans la mise en place des organes électoraux. Manifestement ici, le consensus semble presque inexistant. Et lorsqu'on a 4 groupes parlementaires et que 3 groupes sur 4 sont opposés à un projet, il est loin d'être considéré comme consensuel. Et la société civile également a fait des observations lorsque la première mouture a été proposée. Le gouvernement n'en a pas tenu compte.
La Côte d'Ivoire des élections en 2020, est-ce qu'on a vraiment tiré leçon de l'expérience de 2010 avec toutes les tensions autour de la commission électorale?
Pas seulement la commission électorale, mais dans la pratique, le comportement et les attitudes des différents acteurs politiques, apparemment la Côte d'Ivoire n'a pas pris conscience des périls auxquels il a exposé sa population et dont de nombreuses victimes ont payé le prix. Malheureusement, on prend les mêmes choses et on recommence. Les mêmes épreuves de force, mano à mano, l'absence de vrai consensus autour des processus électoraux qui commencent dans la tension et qui vont se poursuivre dans la tension et s'achever dans la tension. Pour moi, la Côte d'Ivoire ne semble pas avoir fait des efforts en conséquence et l'intérêt général ne semble pas avoir guidé véritablement les uns et les autres, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir. Si c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire que l'on recherche, peut-être qu'on ne doit plus procéder différemment de part et d'autre.
On écoutait Ngoz Fernand Julien de l'ONG Agir pour la démocratie. Il était en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, plus de 6 mois après son élection, le président congolais Félix Tshisekedi devrait bientôt pouvoir former son gouvernement. Les plateformes FCC de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et Cash de son successeur se sont entendues pour gouverner ensemble. L'équipe du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba devrait compter 65 ministères, dont 42 pour le FCC majoritaire au Parlement et 23 pour Cash. Comment se fera cette gouvernance FCC-Cash? Quels sont les obstacles et défis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Gros plan maintenant sur le deuxième débat entre les candidats démocrates à l'investiture de leur parti en vue de la présidentielle américaine de 2020. Le débat a débuté hier soir à Détroit, dans le Michigan. Les échanges ont été marqués par une série de critiques contre le président Donald Trump, mais aussi entre les 10 candidats mettant en relief des tensions croissantes entre les modérés et les candidats radicaux au sein du parti démocrate. Le correspondant de la VOA, Jim Malone, revient sur le débat d'hier soir à son papier et relaté ici par Bagasikoura.
Lors de la première nuit du deuxième débat, des candidats démocrates se sont affrontés sur les soins de santé, l'immigration et les chances de battre le président Trump l'année prochaine. Certains modérés ont placé les plus radicaux comme les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren sur la défensive en critiquant leur plan de soins de santé pour tous et pour lutter contre le changement climatique. John Hickenlooper, ancien gouverneur du Colorado.
C'est un désastre. Vous pourriez aussi bien envoyer par la poste la victoire à Donald Trump.
Le sénateur Sanders a défendu sa proposition radicale en matière de santé et a affiché des sondages montrant qu'il pourrait battre Donald Trump l'année prochaine.
Et la raison pour laquelle nous allons battre Trump, c'est qu'il est un fraudeur et un faux, et nous allons l'exposer tel qu'il est.
Le modéré Tim Ryan, représentant de l'Ohio au Congrès, a averti que les démocrates pourraient perdre les élections s'ils proposaient des politiques trop radicales en matière de santé, d'économie et d'environnement.
Franchement, je ne pense pas que ce soit un programme que nous puissions défendre et gagner. Nous devons parler des problèmes de la classe moyenne.
L'avis de la sénatrice Elizabeth Warren qui a averti les démocrates qu'ils devront proposer des politiques audacieuses s'ils espèrent battre l'année prochaine Donald Trump.
Les démocrates gagnent lorsque nous déterminons ce qui est juste et que nous allons nous battre pour cela. Je n'ai pas peur. Et pour gagner, les démocrates ne peuvent pas avoir peur non plus.
Même si les démocrates se sont beaucoup disputés entre eux, ils ont souvent pu recentrer le débat sur le président Trump. Beto O'Rourke, ancien représentant du Texas au Congrès.
Face à la cruauté et à la peur d'un président sans loi, nous choisirons d'être le président qui défend les droits humains pour tous, la primauté du droit pour tous.
10 autres candidats démocrates devront croiser le fer ce soir devant les caméras, toujours à Détroit, l'ancien vice-président Joe Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris, le sénateur du New Jersey Cory Booker et Julian Castro, ancien secrétaire au logement et développement urbain, auront en quelque sorte 2 heures pour tenter de convaincre les électeurs américains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. Et du scoutisme pour clore le monde aujourd'hui, la Virginie-Occidentale abrite depuis 9 jours un jamboree qui réunit plus de 45 000 jeunes scouts venant de 150 pays. Le jamboree, c'est le nom donné à leur grand rassemblement annuel, échange d'expériences, discussions sur plusieurs thématiques, divertissement, leur quotidien est riche en couleurs et en culture. Eric Manirakiza est allé à leur rencontre dans les montagnes des Appalaches, un véritable village planétaire.
Échappée belle dans un site naturel renommé de Virginie-Occidentale, le Summit Bachelor Family National Scouts. Pour ces jeunes des Comores, le rêve est devenu réalité.
C'est incroyable, c'est comme un rêve. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise.
Jamais rêvé de venir ici. C'est un rêve.
Le Rassemblement mondial des scouts de 14 à 18 ans a lieu tous les 4 ans depuis 1920. Yannick, du Burkina, parle de la beauté de ce jamboree.
Nous sommes là, c'est une jeune famille, ici avec les Sénégalais, les Libériens, les Rwandais, les Ghanéens. Et il y avait aussi des Zambiens, mais qui sont repartis chez eux, dans un autre camp. C'est ce monde meilleur qui a été construit sur un site pour 10 jours. Et chaque fois que je suis assis, je vois les enfants qui ne sont pas du même pays, c'est-à-dire des Belges, des Suisses, des Français, des Africains, bon, disons, un peu partout ici, des Égyptiens, des Chinois, des Japonais. Ils se regroupent tous ensemble pour jouer à côté de notre camp. C'est ce monde meilleur que nous aspirons tous.
Les Grands Lacs et l'Afrique australe sont également représentés. Tous adorent l'ambiance et l'harmonie.
Le monde entier est ici. J'ai vu la paix où tout le monde me ressemble et tout le monde je le ressemble. On se parle et on se sent dans la paix. La paix dans le monde est possible.
Je viens du Rwanda, Kigali. On a appris à vivre avec les autres dans une grande communauté parce qu'il y a beaucoup de personnes de cultures différentes et tout. On fait le camp avec les Sénégalais, on a appris leur cuisine, la cuisine sénégalaise.
Savoir se prendre en charge et organiser sa vie, c'est ce que retient ce jeune Sénégalais.
J'ai appris à comment tenir ma chambre, parce que moi j'étais désordonné, mais là on dit de bien tenir ici.
Ce jamboree est un monde vivant, libre. Sur ce site de Leesburg, en Virginie-Occidentale, plus de 45 000 scouts se gèrent entre eux. Pas besoin de policiers ni de juges, dit John de la Fondation du Scoutisme Mondial.
Tu as des grands événements culturels avec la musique, avec le théâtre, avec la danse. Il y a des choses d'aventure avec le rafting, avec le kayaking, des choses comme ça. Il y a aussi le temps, il y a l'espace. pour arrêter, pour parler avec les gens.
Après 10 jours de vie commune dans un monde idéal, ces jeunes vont retourner chez eux avec l'objectif de rendre meilleure leur communauté, perpétuant ainsi la pensée du fondateur des scouts Baden-Powell, tâcher de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleure que vous l'avez trouvée.
Et voilà, c'est ici que nous allons refermer le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissant. À la technique, on avait l'aide de Tan Wang. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir encore une fois. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Merci, take care.